100% vert sur France Bleu Saint-Étienne Loire.
Alors, quelle sauce pour les grillades, justement, on va le demander à nos invités qui sont avec nous. Bon, là, avec nous, Michel Roux, ancien journaliste du Dauphiné. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. Salut, Michel.
Ben, moi aussi, je suis ravi d'être ici. Et pour moi, ça serait béarnaise.
Béarnaise, d'accord. Pour vous, ouais, béarnaise. Ouais, moi aussi, béarnaise. On va voir Olivier Bernard, Olivier Fargier, ce qu'il a choisi. Et puis, béarnaise. Il y a deux béarnaises pour l'instant. Donc, si vous prenez maillot, de toute façon, on gagne.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas réussi à faire griller des merlus la semaine dernière. Espérons que on arrive avec les Brestois.
Et que pour le moment, la mayonnaise ne prend pas trop.
Oui, pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Ça échappe à personne, effectivement. Bon, bonjour messieurs. Vous allez bien? Enfin, je poser la question. Après le match face à Lorient, bon, on va essayer de se refaire un petit peu la cerise ce week-end. On l'espère, en tout cas, face aux Brestois. Après le merlu, c'est le Paris-Brest qui arrive, effectivement, au menu de ce 100% vert. On va rester toujours dans ces images. Bon, la compo, on va essayer de tirer un petit peu les enseignements et de se mettre à la place de coach Duprat. On va prendre 2-3 Doliprane et puis on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer dans la compo de cette équipe des Verts, essentiellement sur les secteurs de la défense et du milieu de terrain. Est-ce que ça n'a pas trop été ça?
C'est un cauchemar, cette défense. Le Doliprane, c'est tout à fait ça. Je pense que Pascal Duprat doit faire une bonne consommation en ce moment, parce que c'est vrai qu'il avait dit que le maintien passerait par la défense. Et voilà, il est pris en défaut à ce niveau-là contre Lorient avec 6 buts encaissés. Donc là, cette semaine, je pense que oui, il a dû se creuser la tête pour remettre à flot cette défense.
Alors, on l'imagine, ouais, effectivement. Bon, on va évoquer également un autre secteur, ce sont les féminines. Là aussi, c'est pas terrible. Avec Ninon Blanchard, la capitaine des joueuses stéphanoises, on l'entendra dans cette émission. Elle joue, on le rappelle, contre Guingamp, l'Étivalière, demain en début de l'après-midi. Puis on parlera également basket avec Corinne Bénin-Tandy, qu'Olivier Rocher a eu à son micro. C'est la coach du club de basket de Montbrison, le BCMF, qui, Corinne, fait un petit peu le bilan de la saison des basketteuses de Montbrison après leur élimination en play-off contre Toulouse. Le 100% vert, ça démarre tout de suite.
100% vert sur France Bleu Saint-Étienne Loire.
Et demain après-midi à 17h, les Verts qui vont recevoir les joueurs du Stade Brestois dans un match qui ressemble déjà à un match couperet dans cette lutte au maintien en Ligue 1. Ça sera le match du pardon après la gifle reçue face à Lorient. Très rapidement, on peut l'expliquer comment? On cherche toujours à l'expliquer, cette défaite. On n'arrive pas à trouver des mots et à trouver une explication cohérente après avoir mené 2-0 dans un match comme ça, qui est un match hyper important, peut-être un des 2-3 matchs les plus importants de la saison. Tu es sur la pelouse des Lorientais, tu mènes 2-0, tout se passe bien, puis d'un seul coup, tout se délite en l'espace de 10 minutes. On a l'impression que on a pris d'autres joueurs et qu'on les a mis à la place des joueurs stéphanois qui ont fait le premier quart d'heure. Moi, je suis le foot depuis des dizaines d'années, j'ai rarement vu un match comme ça, et j'ai pas d'explication. Je sais pas si vous en avez une, vous.
Alors, Arnaud Dordain, hier, en a avancé une. Il a dit tout simplement, sur le terrain, on n'a pas parlé le même langage. Certains voulaient enfoncer le clou et mettre ce troisième but, qui aurait sans doute, on peut l'imaginer, scellé le sort du match.
Bah oui.
Et d'autres se sont dit, 2-0 c'est bien, rentrons comme ça à la mi-temps et préservons ces deux buts d'avance et soyons un petit peu plus frileux, pragmatiques, et essayons de conserver cet avantage. Donc, mais le problème, c'est qu'il y avait la moitié de l'équipe qui était portée vers l'offensive, l'autre qui restait sur ses bases. Il y avait un no man's land dans l'entrejeu, notamment. Les buts, c'est invraisemblable. Et une autre explication, un constat, plus ou moins, plus exactement, pardon, celui dressé par Duprat, il a dit quand même qu'on a encaissé 4 buts sur rentrée de touche. Alors, pour nous qui suivons le football depuis des décennies, c'est vrai que déjà prendre un but sur une touche, c'est anormal.
C'est très rare déjà, on va dire.
On doit être en place. C'est pas un coup de pied arrêté, c'est pas un corner, c'est pas un coup franc. Il y a voilà.
Et des touches offensives en plus. C'est-à-dire que parfois, c'est nous qui faisons.
On a même perdu une touche offensive qui s'est. 10 secondes après, c'était filoche. Donc, ça, ce sont des erreurs individuelles qu'on a payé cash. et les erreurs collectives auxquelles je faisais référence en préambule, c'est-à-dire cette équipe qui était un petit peu coupée en deux dans sa tête. Oui. C'est-à-dire, on se porte vers l'offensive.
Ouais, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on reste derrière,
tue le match, ou bien 2-0. Ouais. Mais sincèrement, on aurait signé avant le match.
Alors moi, j'ai envie de vous poser la question. Ouais, ça tient la route comme explication, mais ça laisse quand même encore d'autres questions. Comment est-ce que les joueurs l'orientés arrivaient à rentrer dans la défense stéphanoise, notamment dans l'axe de la défense, défense centrale, comme dans du beurre, quoi.
Précisément, parce que la première ligne peut-être ne faisait pas son job.
Ouais.
La deuxième ligne dans l'entrejeu, il y avait quand même des joueurs qui sont pas à vocation défensive. Je pense à Boudbouze ou à Ouchiche, qui étaient quand même en 6, en 8, on sait plus trop. Alors, Boudbouze a joué un peu plus haut. Enfin bon, c'est pas franchement des domaines dans lesquels ils excellent. Et les Lorientais, mais se sont engouffrés là-dedans, mais c'était des brèches béantes. Et voilà. Et donc, nos défenseurs, ils se sont retrouvés un petit peu en tête à tête, en 1 contre 1. Et force est de constater, hélas, que dans les duels, on a été régulièrement battu. On arrive à ce scénario complètement inouï, a fortiori, contre une équipe qui n'avait marqué que 11 buts en championnat sur son terrain.
11 buts, ouais.
Voilà. Qui nous en plante 6 en 50 minutes, sans omettre, quand même 2 buts refusés par la VAR pour hors-jeu. Ouais. Le premier à 1-0, sincèrement, c'était un hors-jeu VAR.
Il y a matière à discussion.
Le
premier,
c'est absolument affolant. On avait connu une réussite quasi maximale, et derrière, on a galvaudé ce match, et contre un adversaire direct, effectivement, ça pose un gros problème, et ça a suscité une remontée de bretelles sympathique dès samedi.
On l'imagine,
On l'imagine, parce qu'à 7 journées de la fin, il est temps de redresser la barre et de ne plus musarder en chemin, parce que là, tous les points vont compter, mais tous les buts aussi vont compter.
Ouais, tous les buts,
on le dit depuis 3 mois.
Le Golavérage,
soyons attentifs au Golavérage.
C'est hyper important.
Et moi, je peux vous dire que samedi soir, j'étais content de voir Mbappé vouloir améliorer ses stats. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. J'aurais bien voulu que le match dure encore 10 minutes de plus. Parce que,
évidemment. Moi, je suis persuadé que ça va être même peut-être.
Faire le distinguo entre le 17e et le 18e pour une affaire de 1 voire 2 buts. Hein.
Oui.
Donc, on en est là. À la veille d'un match contre Brest qui faudra absolument gagner. Et là, si on ne gagne pas. Vraiment dans le dur.
Là, c'est mauvaise limonade, effectivement. Bon.
Je peux rajouter, entièrement raison, vous avez entièrement raison, on n'a pas su changer sur ce match de plan de jeu, en fait. Parce que cette équipe de l'Orientaise, elle va mieux et elle fonctionne en contre. Et c'est vrai qu'à 2-0, il aurait peut-être fallu changer, et c'est ce que Duprat a relevé à la fin du match, c'est-à-dire que, peut-être un taulier ou qui a vraiment de l'influence sur toute l'équipe.
Mais il y a des joueurs qui ont un vécu, qui ont une expérience, qui ont fait quand on regarde Mangala, il a fait des gros clubs. Oui. Enfin, je sais pas, il y a quand même des voix dans le vestiaire qui peuvent.
Ils sont pris entre deux feux, c'est-à-dire que, il reste peu de matchs et des matchs nuls suffiront peut-être pas. Donc, en fait, le plan de jeu de Duprat, il l'a dit aujourd'hui, c'est prendre des risques de manière sécurisée. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, justement, on voit très bien que.
J'adore. C'est avancer sans trop reculer.
Oui,
en même temps, en version foot.
Mais justement, dans la tête des joueurs, on l'a bien vu, ils ont un plan de jeu et je pense qu'ils avaient envie de continuer parce que ils ont envie de sortir de cette situation et là ils avaient vécu 20 minutes.
Alors moi je vais vous poser une question
différente.
Il me faudrait une réponse très courte et je vous la posais à tous les deux. Est-ce que quelque part le comportement des joueurs ça retranscrit pas quelque part un petit peu l'incertitude du coach qui savait pas s'il fallait mettre le bus derrière parce que quelque part le coach il est sur le bord du terrain. On tape des mains en disant, oh les gars, vous mettez le bus derrière, vous laissez passer un petit peu l'orage, et puis après derrière, on ressort. Là, on a l'impression que quelque part, on a subi le truc, et c'est le coach directement qui a subi justement un petit peu le match, et qui a pas su quoi dire à ses joueurs. C'est à lui à les diriger quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Oui, alors c'est sur le banc, l'influence d'un coach, elle est indéniable. Mais là, dans l'euphorie, parce que je souscris à ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que on est dans la galère, on mène 2-0 lors d'un match à 6 points, et on se dit que c'est le soir où on va pouvoir faire bingo, reprendre 3 points directement à Lorient, et peut-être leur mettre 3-4-0.
Franchement, c'est tous vu bleu. Hein,
quand ça commence comme ça, un match, ça peut aller très très vite. Et à ce moment-là, le goal average dont je parlais tout à l'heure, plus 4, moins 4 si on gagne 4-0, plus 3, moins 3 points, c'est le match qui vous fait basculer vers la 15e place, voire la 16e, mais avec une marge assez solide sur Metz et Bordeaux. Et je pense que c'est vrai qu'ils ont voulu enfoncer le clou et que ça, voilà, on peut pas leur reprocher.
Et qu'en plus, ils ont appris à jouer comme ça pendant à peu près les deux tiers de la saison, en pressant haut avec Claude Puel. Et d'ailleurs, le premier jour où Pascal Duprat est arrivé à l'entraînement, on l'a vu, il était filmé, il a dit aux joueurs, arrêtez de partir à l'abordage là-haut. Sauf que, il a beau le dire, ça passe pas, a priori. Ils n'ont pas réussi à entendre le message.
Allez, bon, on va revenir dans quelques instants sur France Bleu Saint-Étienne-Loire pour la suite du 100% vert. Vous pouvez d'ailleurs nous passer un petit coup de fil, hein, 04 77 10 0 0 10 et venir nous dire un petit peu quel changement vous attendez. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous feriez rentrer sur le terrain si vous étiez coach? On est tous un petit peu coach, hein, quelque part de l'ASS. On a tous nos petites idées dans un coin de la tête. Vous nous passez un coup de fil et vous intervenez ici en direct à l'antenne. Et en plus, vous repartirez avec un petit cadeau. 04 77 77-10-0-0-10. Allez, on revient de suite, les amis.
18h-19h, France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% vert.
France Bleu Saint-Étienne-Loire vous recommande le tournoi international du FC Saint-Joseph Saint-Martin. La crème de l'espoir du foot ligérien nous donne rendez-vous face aux plus grands. Venez soutenir la sélection du pays du Gier au tournoi international Saint-Joseph Saint-Martin du 16 au 18 avril.
De Portail Rouge à la Cité du Design. De Côte Chaude à Geoffroy Guichard, France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% stéphanois.
Allez, la route, on l'a fait ensemble, 04 77 10 00 10 du monde, hein, pour l'instant sur la rocade Est, sur la traversante de la 72, en vous rendant en direction de Saint-Prix-en-Jarret. Pour le reste, ça va un petit peu mieux, la météo très rapidement avec du beau temps, un ciel d'un bleu limpide qui nous attend demain du matin jusqu'au soir avec de belles températures jusqu'à 23 degrés pour les maximales.
Toute l'actu de la SSE dans 100% vert sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Et un match à enjeu pour les Verts, hein, qui jouent leur survie, en tout cas une partie de leur survie. Une fois de plus, ça sera sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard, un match que vous pourrez suivre en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire à partir de 17h. Vous pourrez la suivre également si vous êtes en déplacement sur la nouvelle appli qui s'appelle Ici, hein, qui regroupe les programmes, les podcasts également de France Bleu et également de France Télévisions. Ce match, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec nos consultants, hein, Michel Roux, ancien journaliste du Dauphiné, Olivier Fargy, auteur du podcast Coup de tête. On essaie de trouver des explications à ce qui s'est passé à Lorient pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faudrait changer justement samedi. Alors si vous étiez vous dans la peau d'un coach et si vous étiez sur le banc stéphanois, Olivier et également Michel, qu'est-ce que vous changeriez déjà par rapport à Lorient? Je vais commencer par Olivier qu'on n'a pas trop entendu depuis le début de l'émission.
Non mais j'apprécie
écouter. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'en plus, alors que ce soit un ou l'autre qui intervienne, de toute façon vous pensez tous les deux la même chose.
Là,
c'est
ça
qui
est génial, quoi. On était raccord pour le coup là, c'est bien. Puisque tu me permets de dire juste que évidemment on est observateur, donc on est, vous nous invitez vraiment, c'est vraiment sympathique et donc on donne notre avis, mais il s'agit pas voilà de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non,
mais qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez?
Il y a des gens bien plus capables que moi en tout cas pour organiser l'équipe sur le terrain. On est d'accord. Mais bon, je regarde tous les matchs de la Saint-Étienne depuis un certain nombre d'années, donc je dirais, c'est que, et je l'ai dit d'ailleurs à la mi-temps du dernier match, puisque ça commençait à aller très mal, c'est là où on va voir si Duprat est un bon coach, parce qu'un coach, c'est pas seulement mettre des joueurs à des places sur le terrain, c'est redonner envie. Il faut être entraînant, on va dire, et redonner envie aux joueurs. C'est ça. Est-ce qu'il a réussi à soigner les têtes? Cette semaine, il dit que les joueurs, les jeunes joueurs switchent très rapidement suite à une défaite. Bon, celle-ci, je pense qu'ils ont, ils vont mettre un certain temps. Ah, ils ont dû mettre un peu plus de temps. Et l'enjeu, il est surtout là. Après, eh bien, de toute façon, des joueurs, on va pas les inventer. Surtout qu'en défense, donc on a un joueur qui est suspendu, qui était dans le 11 titulaire la dernière fois. Donc voilà, je pense qu'il a c'est surtout attaché à
l'aspect psychologique, en fait.
Oui, psychologique, bien sûr. Et puis cette défense aussi. On a vu que Trauco rentrait, que c'était pas tout à fait ça. Alors faut voir peut-être dans le 11, je sais pas. Gabriel Silva est également rentré parce que a priori cette défense, bon, faut trouver une solution. Je pense que Colo a très mal pris, mais de sortir, et il va être revanchard à mon avis. Donc est-ce que ce sera une défense à 5, est-ce que ce sera une défense à 4, franchement je sais pas. Je pense qu'il va attendre encore la venue de Masson pour vraiment avoir un défenseur droit et jouer à 4 derrière. Donc je pense qu'on va jouer à 5 avec Mkoudi. Et puis voilà, moi je suis en attente de Seydou Sow. Donc vous me réinviterez quand il sera dans le groupe. Il l'est pas. Je pense que ce jeune homme peut vraiment nous sortir de la galère malgré son très jeune âge. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a marqué 2 buts importants. Il a ramené 4 points au club. Voilà, on les compte, donc quand il sera sur pied, je pense que ça ira mieux dans cette défense.
Ouais, Michel.
Ouais, ben oui, effectivement, on aura bien besoin de toutes nos forces vives. Donc là, demain, on aura quand même 2 joueurs très importants qui vont rentrer.
Ouais, il y a Virto, c'est Wabi Kazri et Madi Camara.
Madi Camara, ce sont quand même nos deux anciens capitaines, anciens et actuels. C'est pas le fait du hasard. On confie pas le brassard à un joueur lambda, un anonyme du vestiaire. Donc bon, ça, ce sont 2 rentrées absolument qui peuvent se révéler, je l'espère, déterminantes. En tout cas, on connaît leur envie, leur enthousiasme, faisons en sorte de qu'ils fassent en sorte de le communiquer à l'ensemble du groupe. Mais bon, on n'est pas complètement dans le secret des dieux, mais on sait un certain nombre de choses qui peuvent se passer à l'étra. On sait que depuis samedi et cette réunion qui s'imposait après la déconvenue de la veille, des choses se sont dites. Alors bon, c'est vrai que parfois on dit bon, c'est bien beau les propos, mais on voudrait maintenant mettre des actes. Sincèrement, effectivement, Duprat stigmatise souvent le comportement des jeunes en disant ouais, ils switchent, ils zappent. Là, hier, il nous a fait part de son ressenti sur les séances de ce début de semaine, et il nous a dit que là, il n'avait pas senti des joueurs qui avaient zappé, mais des joueurs qui avaient quand même pris conscience de des errances qui avaient été les leurs vendredi soir à Lorient, et de l'importance que revêtent maintenant les 7 derniers matchs de cette saison, parce que on a déjà pris on a déjà essuyé de cuisants revers cette saison,
la saison, d'accord,
on en a pris 5 à Strasbourg, on en a pris 5 à la maison contre
Rennes,
mais
là c'est un match capital, quoi.
Et souvent derrière on nous dit bon, bah, ça y est, voilà, on baisse la tête et on va se remettre au travail, et puis ça va repartir. Non, c'est pas comme ça d'un coup de baguette magique que ça se passe. Il faut mettre 2 équipes derrière nous. Et pour ça, il va falloir prendre sans doute 10 points. Il en reste 21. 10 points, ça veut dire 3 victoires, 1 nul.
Puis ça revient derrière en plus.
Bordeaux est revenu parce que Metz paraît très mal en point. Bon, Bordeaux, ils sont revenus parce qu'ils ont joué une confrontation directe. Là, on peut espérer que nos amis et voisins lyonnais Fort Marie de leur déconvenue hier
Les Lyonnais,
soir.
Vu ce qu'on a vu.
Aussi, ils ont eu une belle remontée de bretelles de la part de leur président aujourd'hui, et qu'ils vont faire en sorte que les 7 derniers matchs se transforment en 7 succès pour accrocher l'UEFA.
Ouais, franchement, moi, j'y crois pas les masses.
Pourvu qu'ils en gagnent un, et que ce soit demain contre Bordeaux, moi, ça me va très bien.
Ouais, ça serait pas mal. Ouais.
Sincèrement, ce week-end, on a. A priori, la possibilité de prendre 3 points. Attention, Brest est une excellente équipe. Il y a notamment un certain Franck Honora qui nous a
quitté. On va en parler tout à l'heure avec notre correspondant, justement, de Nicolas Blanza, correspondant de France Bleu, Brest Isol. Il m'a dit c'est Isol, il faut dire. Isel. Ouais, voilà. Hein, c'est ça, c'est Isel. Hein, voilà. On l'aura avec nous, d'ailleurs, d'ici quelques minutes. Bon, on va écouter un petit peu de musique, et puis on va revenir, justement, avec ce match au combien important. Les Verts qui reçoivent les joueurs du stade brestois demain. Je vous rappelle que la rencontre sera à suivre à partir de 17h, l'avant-match 16h30. Vous connaissez Lisa, messieurs?
Ah oui.
Vous, la voici. Never mind the stars in the sky.
Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing.
Ça fait du bien d'écouter un petit peu de musique comme ça, ça détend parce que on sent un petit peu de tension autour de cette table en parlant de ce match entre l'ASS et le Stade Brestois, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. The Real Thing, on vient de l'écouter à l'instant, c'était Liza Stanfield. Allez, vous restez avec nous. On va rejoindre dans quelques instants Nicolas Blanza, c'est le correspondant journaliste, c'est lui qui suit les joueurs du Stade Brestois pour France Bleu Brest Isel. Il sera avec nous d'ici quelques minutes, et puis on revient avec Michel Roux et Olivier Fargier. Ce sont nos petits camarades aujourd'hui qui sont venus, ce sont nos invités autour de cette table, et on va continuer à discuter de cette rencontre Saint-Étienne face au Stade Brestois. On marque une petite pause et puis on revient très vite pour la suite du 100% Vert.
Jusqu'à 19h, France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Vert. France Bleu, partenaire de ILSEM, enfin presque, une soirée événement sur TF1, d'après le spectacle culte de Muriel Robin et Pierre Palmade. Cinq couples et leur entourage, ils partagent les bons et les mauvais côtés de la vie à deux, avec Muriel Robin, Pierre Arditi, Pierre Palmade, Carole Bouquet, Michel Larocque, Arnaud Ducré, Florent Père, Claudia Tagbo et plein d'invités surprises. Ils s'aiment, enfin presque, lundi 18 avril sur TF1 à 21h10 avec France Bleu. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
Je vous écoute tous les jours et on apprend plein de choses.
Surtout ne changez rien.
Merci France Bleu.
On fait la route ensemble et toujours du monde. Hein. Ça roule en accordéon sur la rocade Est, sur la 72 entre le parc des sports de l'Étivalière et puis la jonction entre la N88 et la 72. Et puis le secteur Couramio, c'est là qu'il y a les plus grosses difficultés à l'heure actuelle sur la 47 dans la traversante Couramio. Il y a du monde actuellement sur la 47 et là aussi la circulation est un petit peu compliquée. Et puis même sur le secteur de Saint-Chamond centre, hein, on a par exemple le quai de la Rive hein, qui est à l'arrêt. On a également la rue Victor Hugo. Il y a un joli bouchon qui s'est créé. La route 04 77 10 00 10. On l'a fait sous un ciel bien dégagé en une nuit étoilée. C'est ce qui nous attend pour demain. On aura du soleil également du matin jusqu'au soir. Et puis les températures qui vont grimper jusqu'à 23 degrés. On attend 16 degrés à Issaint-Jouy, à Saint-Bonnet-le-Château, 18 à Bouin, 19 sur la métropole stéphanoise, mais aussi à Roanne, au Puy, à Monistrol, à Bourg-Argental et Montbrison. 20 degrés à Saint-Galmier, 21 à Feurs et Charlieu, 23 degrés à Saint-Pierre-de-Beuve. Du beau temps également dimanche.
La météo 100% locale avec Murprotec, numéro 1 de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic de votre habitation offert sur murprotec.fr.
Toute l'actu de la SSE dans 100% vert sur France Bleu Saint-Étienne.
Ils sont avec nous Michel Roux, ancien journaliste du Dauphiné, puis également Olivier Farger, l'auteur du podcast Coup de tête. Et dans quelques instants, Nicolas Blanza, le correspondant journaliste, hein, c'est lui qui suit la, c'est la voix en quelque sorte du stade brestois. Il va nous donner quelques nouvelles justement du stade brestois et on va essayer de voir un petit peu si les Brestois sont en forme ou pas. Le stade brestois, c'est alors moi, je vais un petit peu vous faire peur parce que c'est une équipe qui est plus à l'aise en fait à l'extérieur qu'à domicile, moi j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Exactement. Encore une fois, parce qu'elle joue à 5 derrière et qui contre. Donc les équipes qui les reçoivent essayent de faire du jeu forcément face à leur public, avec leur public à côté. Et donc ils prennent un malin plaisir à contrer, et notamment avec Honora, bien sûr, qu'on connaît bien. Alors Satriano ne sera pas là. Hein. Ils ont eu une bonne pioche au niveau du mercato.
Ils sont pas mal débrouillés.
Contrairement à nous, mais Satriano sera pas là, donc c'est déjà bien. Et puis c'est vrai que cette équipe, alors il manque quelques points pour se maintenir, mais s'il y a une équipe voilà qui est un peu dans le ventre mou, qui ne joue plus grand chose, c'est quand même cette équipe brestoise. Et si si l'atmosphère veut bien être positive autour de ce match côté stéphanois, je pense que ça peut sourire pour Saint-Étienne. Tout à l'heure vous disiez qu'est-ce qu'il faudrait faire. Camara par exemple, je le mettrais bien au milieu de terrain plutôt que plutôt si j'étais Pascal Duprat, plutôt qu'en défense, parce que on a bien vu qu'avec Aouchi ça manquait. Pour revenir à cette équipe brestoise, elle va pas se découvrir pour le coup. Tout à l'heure on disait la prise de risque sécurisée, je crois que c'est l'inverse côté brestois, c'est la sécurité avec quelques prises de risque de temps en temps.
Bon, on va essayer d'en savoir plus justement avec Nicolas Blanza. Salut Nicolas.
Oui, bonsoir à tous.
Alors Nicolas, on regardait tout à l'heure avec nos petits camarades de jeu présents sur le plateau les derniers résultats du stade brestois, avec des défaites à la maison, des victoires à l'extérieur face à des équipes en plus qui sont pas faciles à manœuvrer chez elles, hein, comme Montpellier, Lens. On a l'impression qu'elle s'est plutôt bien voyagée quand même, hein, cette équipe brestoise.
Oui, c'est l'une de ses caractéristiques. Effectivement, c'est paradoxalement l'une des meilleures équipes de Ligue 1 à l'extérieur, 7e meilleure équipe du championnat avant le début de cette 32e journée. C'est vrai que les Tizèf, ils sont plus à l'aise, en tout cas comptablement, à l'extérieur qu'à domicile cette saison, avec effectivement des matchs où on les attendait pas forcément, où ils ont répondu présent. Il y a eu des victoires dernièrement, c'est vrai, sur la pelouse. On l'évoquait de Lens, de Montpellier. Il y a aussi une victoire plus tôt cette saison sur la pelouse de Marseille, par exemple. Voilà, c'est vrai que en déplacement, ils sont plutôt à l'aise, les Brestois, mais ça correspond aussi un petit peu au style de jeu de Michel Derzakarian, hein, où des transitions défensives vers l'attaque qui sont plus faciles, entre guillemets, à déployer sur des terrains où les adversaires essayent de maîtriser le ballon, etc. Donc voilà, ça a pu expliquer en partie cette réussite à l'extérieur.
Bon, Nicolas, le stade brestois actuellement, il est 12e avec 39 points. Le maintien, on peut le dire, hein, c'était en tout cas le gros objectif principal du club. Il est acquis maintenant. Comment est-ce que vous la jugez, avec un petit peu de recul, cette équipe brestoise, la saison en tout cas du stade brestois?
Irrégulière. Effectivement, l'ambition première c'était de se maintenir. Même si comptablement il en manque encore peut-être un petit peu au club, on estime qu'il manque une victoire pour l'acter définitivement et qu'on va basculer vers un autre objectif. On évoque le top 10, hein, la 10e place, etc. Même si elle paraît un petit peu loin parce qu'à ce jour il y a 7 points d'écart. Ouais. Mais en tout cas, cette saison brestoise, oui, elle a été irrégulière. Elle a commencé par une série hallucinante où il n'y a pas eu de victoire pendant un très long moment. Il y a eu 7 matchs, même plus que ça en début de saison. Il y a eu 11 matchs sans victoire pour les Brestois. Et puis après, il y a eu un déclic. Il y a eu 6 victoires de rang qui ont complètement permis aux Brestois de se relancer alors qu'ils étaient englués dans le bas de tableau.
On s'en souvient.
Et après, depuis le début de la phase retour, enfin depuis le début de l'année civile 2022 et la phase retour, ce sont des résultats en dents de scie. On l'évoquait tout à l'heure, voilà, des victoires parfois un peu inattendues à l'extérieur, des défaites à domicile avec notamment dans un derby contre Lorient, un flagrant manque d'engagement, un match à Angers où les Brestois n'ont pas du tout répondu présent alors qu'Angers restait sur 7 défaites consécutives. Voilà, donc ça a été une saison irrégulière, on peut dire, mais c'est un peu l'eau de pas mal d'équipes du milieu de tableau finalement.
Brest, on l'a dit tout à l'heure, n'a plus aucune pression, le maintien est assuré. Ce match, Nicolas, vous allez nous le laisser gagner ce samedi?
On ne sait pas. Enfin, en tout cas, les Brestois, ce sera pas aussi simple que ça. Voilà, on en parlait avec Michel Derzakarian, bien conscient du contexte stéphanois, de la volée 6-2 prise à Lorient le week-end dernier, qui s'attend à un possible réveil, révolte des Verts. Voilà, on a bien lu côté Brestois l'appel des ultras, l'appel au peuple vert à venir avec le maillot. Mais du côté Brestois, on se demande, et notamment Michel Derzakarian, si ça peut pas se retourner contre les joueurs aussi au bout d'un moment dans cette partie, si les Brestois arrivent à retarder l'échéance ou à ouvrir rapidement le score, pourquoi pas. Voilà. Donc non, ça sera pas un match sur tapis vert pour les Verts, rassurez-vous.
Bah, un petit prono pour la rencontre.
Un petit prono pour la rencontre, c'est dur ça. Hein, c'est dur ça. Parce que,
allez-y, il faut se mouiller. Hein.
on va dire de partout. Voilà, parce que la défense des Verts, elle est inquiétante et Brest est plutôt à l'aise en déplacement.
Ouais, elle est plus qu'inquiétante, effectivement. Ouais. Merci Nicolas Blanzin, c'est un plaisir.
Bonne soirée.
Bon, voilà, 2-2 pour les prolos. On verra nous de notre côté les prolos tout à l'heure. Un petit peu de musique, Angèle, ça s'appelle Libre.
Libre, me voilà, c'est ma voix, là, la suite en musique. Sur scène, en coulisses, libre, me voilà. Voilà la suite en roue libre, tout en équilibre. J'avais peur avant, je parlais tout bas. J'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Je suis libre, ça ne changera pas.
C'était Angèle sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire, il est 18h41, les amis. Le 100% vert, on est de retour. On a parlé des Brestois. Bon, on va revenir très très rapidement justement sur cette équipe stéphanoise à la veille de cette rencontre ô combien importante face au stade Brestois. On va faire un petit récap très rapidement justement des forces en présence. Il y a donc deux retours côté stéphanois, c'est Madi Camara et puis également Wabi Kazri qui seront présents. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, nous...
Un retour important d'un jeune qui avait été... qui s'était mis en exergue. C'est le jeune Bakayoko, qui peut être une alternative intéressante sur axe droit, côté droit.
C'est contre PSG, c'est ça qui...
Oui, il a fait deux gros matchs.
Deux gros matchs,
Il avait été étonnant. Mmh. Là, il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Donc, avec Wabi et Madi, espérons que ça puisse donner quelque chose de bien, quoi.
Ouais. On l'imagine aisément au sein du club, derrière une forme de pression, la pression qui s'exerce notamment sur le coach. Est-ce que quelque part, dans ce genre de situation où on voit que c'est tendu, c'est tendu au niveau des joueurs, c'est tendu au niveau de l'équipe dirigeante, est-ce que ce stress et cette tension qui retombe sur les épaules du coach, est-ce que le coach n'a pas tendance à involontairement peut-être à la faire rejaillir aux joueurs? Et est-ce que quelque part justement les joueurs ne le ressentent pas dans une situation comme celle-là? Comment ça se passe actuellement, vous qui êtes un petit peu dans les...
Moi, les joueurs sont des grands garçons. Oui. Parfois, ils avancent un petit peu des excuses fallacieuses quand ils sont pas bons. Et ça, c'en est une, parfois. On nous met une pression de dingue, on ressent cette pression. Ouais, enfin bon... Et en même temps, on dit d'eux que parfois ils switchent et ils zappent les matchs une heure après. Donc, c'est pas très cohérent. Mais donc, non, je pense pas. Et je pense que là, Pascal Duprat, dans cette dernière ligne droite, hier, il a eu un discours que j'ai trouvé assez intéressant en conf de presse. Oui. Et je pense que, et j'ose espérer, alors c'est peut-être un brin chauvin, mais je pense qu'il va, toutes les réunions, les échanges, les entretiens individuels qui ont eu lieu de façon fort légitime depuis samedi, ça aura mis sans doute une forme de pression, mais aussi de vraie prise de conscience, et que demain on verra une équipe qui peut-être malheureusement ne s'imposera pas, mais je pense pas qu'on verra une équipe frileuse, timorée et qui a pas d'envie. Et donc ça ce sont quand même des ingrédients importants, parce que si vous montrez pas de la détermination et pas d'enthousiasme et pas d'envie d'aider
les petits copains, vous les perdez sur le terrain déjà.
Je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. Pas sombrer dans l'optimisme béat de certains. Il l'a dit aussi, ça, Duprat, hier. Il a dit, bon, depuis le début, je vous dis, depuis le 15 décembre, on va se sauver. Moi, je le pense aussi. Je pense aussi qu'on va se sauver.
Je vous coupe. Hein. Oui. Michel, vous pensez qu'il a toujours la main sur la... Quand il y a une défaite comme ça, est-ce que les joueurs se mettent pas à douter en disant, ouais, l'entraîneur, finalement, bon, je veux dire, ils ont viré Puel, ils ont mis Duprat à la place, mais finalement, on n'y arrive pas avec lui non plus. Est-ce qu'il a toujours la main sur son rôle? Est-ce qu'il n'y a pas des doutes un petit peu?
Alors, on aurait perdu 3-2 et dans un scénario différent, oui. Peut-être. Mais là, quand vous menez 0-2 et que vous perdez 6-2, désigner du doigt et incriminer le coach, c'est quand même, ça serait un peu fort de café. Ouais. Donc c'est vrai que le fait d'avoir pris une bonne purge, peut-être que ça va avoir remis un petit peu du plomb dans la tête à tout le monde, que tout le monde se dise, on est en grand danger. Ouais. On l'était il y a 2 mois, on a eu une période.
Les joueurs quelque part se sont cru sauvés alors. Ouais.
Oui, c'est
peut-être
ça.
Et
puis les fantômes sont ressortis et la pression, c'est vrai qu'ils l'auront. Il y aura une partie du public qui, à mon avis, au début du match, va être là
et va regarder ça.
Surtout si voilà les quelques joueurs qui sont pointés du doigt sont sur la pelouse, alors que moi je pense que encore une fois avec mon humble œil d'observateur, mais comme vous me posez la question, qu'il faut surtout pas tout changer. La plus grosse bêtise, ce serait de tout remettre en question, ce qui a été fait récemment, la défense, les titularisations, etc. ça je trouve que ça serait la pire erreur, parce qu'après, si ça ne marche pas en ayant tout changé, il reste zéro solution.
Effectivement. Allez messieurs, 18h46, un petit coup d'œil sur la route tout de suite, et puis on va revenir, on va parler des faits féminines à présent également qui ont pas mal de difficultés, et ce depuis le début de la saison. Et puis on a Romain qui nous a passé un petit coup de fil, hein, qui nous signale un accident sur l'A47, plus précisément au niveau de la Grand Croix en direction de Lyon. Il y a deux véhicules légers qui sont sur le bas-côté de la route. La circulation est très chargée, effectivement. Ils sont en train de vérifier ça sur nos écrans et ça bouchonne énormément. Voilà, sur l'A47, attention, prudence au volant, la route très rapidement. La météo avec également un ciel en tout cas qui va rester bien dégagé. Quelques petits nuages d'altitude ce soir, mais rien de bien méchant. Puis surtout du beau temps demain, du matin jusqu'au soir. On va démarrer côté météo le week-end pied au plancher avec de belles températures, puisque les maximales tutoieront les 23 degrés.
Toute l'actu de la SSE dans 100% vert sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Alors, on va parler foot féminin. On a parlé des garçons tout à l'heure et côté filles, c'est pas terrible, puisque les filles sont derrière, hein, de cette première division avec, je crois que c'est 6 petits points, il me semble, au compteur.
C'est ça.
C'est pas terrible, terrible. Est-ce qu'elles peuvent encore éviter la descente? Là, elles vont jouer contre Guingamp. C'est un candidat direct face à elles, un candidat direct pour la relégation, donc en deuxième division. Là, il faudrait quasiment gagner tous les matchs.
Bah là aussi, il faut, comme pour les hommes, il faudrait prendre 10 points. Là, ce n'est pas 10 points sur 21, c'est 10 points sur 15. En revanche, si le calendrier des garçons est difficile, celui des féminines paraît... Pareil, abordable. Je dis pareil, bon, parce qu'elles ont quand même concédé 13 défaites en 17 matchs. Donc, mais elles ont la chance, l'opportunité de jouer à la maison contre les trois équipes contre lesquelles elles sont en bagarre.
Oui. Bon, en tout cas, elle est optimiste, hein, Ninon Blanchard. On va l'écouter, ce qu'elle a répondu aux questions d'Olivier Rocher. La voici tout de suite.
Oui, Ninon Blanchard, la capitaine, s'est exprimée devant la presse hier. Elle a été interrogée sur le côté match de la dernière chance.
Vous le voyez certainement comme ça et... Bon, si j'étais à votre place, je le verrais aussi de cette manière-là. Mais moi, pas du tout. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde pense qu'on est peut-être un peu morte et que c'est le dernier match. Mais nous, on l'aborde pas du tout de cette manière-là. Et on est toutes des compétitrices. Je sais toutes que dans cette équipe, à un moment donné, dans leur carrière, on leur a dit ça, c'est impossible à faire. Et pour autant, vous savez que nous, ce qui est impossible, ça nous galvanise. Donc là, c'est un objectif que personne n'a réussi à atteindre. Je crois que des stats que j'avais vus, des équipes qui avaient 6 points à ce moment-là, il n'y a personne qui avait réussi à se maintenir. Et c'est l'un des plus beaux challenges à relever. Et je sais que toutes les filles qui sont dans cette équipe sont concernées et ont envie d'atteindre celui-là.
Cette saison, souvent, les Vertes ont mené au score. Souvent, les Vertes ont été rattrapées, voire dépassées au tableau d'affichage. Un axe de travail important, est-ce dû à un manque d'expérience ou de confiance? La réponse de la capitaine.
Non, je pense pas que c'est un manque de confiance ni d'expérience, parce que pour avoir discuté après les matchs où ça a été le cas, où on a mené au score, notre envie après avoir marqué le premier but, c'est de marquer le deuxième but. Et après, je pense qu'on a toujours peut-être un petit défaut ou saut de concentration durant le match, et qui en D1 se paye cash. Sûr que les autres années en D2, ce petit saut de concentration, il était peut-être pas payé cash, et en D1 c'est le cas. Donc si ce week-end on arrive à mener au score, et j'espère que ce sera le cas, il va falloir qu'on reste concentré à 100% jusqu'à la fin, quoi.
Alors, parmi les atouts du match en faveur des Stéphanoises, c'est le match des hommes qui se tient juste après, à quelques dizaines de mètres du terrain. C'est Liv Keita.
C'est l'une des premières fois, je crois, dans la saison que les pros jouent juste après nous. Donc pour moi, c'est un point positif, parce que forcément que il va y avoir beaucoup de monde, je pense, pour SS Brest à 17h. Et étant donné que géographiquement, notre stade est très bien placé par rapport à Geoffroy Guichard, j'espère que les supporters vont venir nous voir. Et moi, je pense sincèrement qu'il y aura du monde. Et encore une fois, je vais le répéter, mais cette année, j'ai vraiment connu l'importance et l'impact du 12e homme. Et j'espère qu'ils répondront présents, parce qu'en plus, le club a mis en place des choses. Enfin, les personnes qui vont pouvoir venir voir ISS Brest ont une place pour venir nous voir. Donc, j'espère que les supporters vont jouer le jeu et qu'ils seront nombreux. Et après, qu'on puisse aller voir les pros ensemble pour leur victoire aussi.
Les hommes jouent à 17h à Geoffroy Guichard et les femmes, donc, jouent à... Les hommes jouent à 17h à Geoffroy Guichard et les femmes jouent à 14h30 au terrain Salif Keïta du parc de l'Étivalière. On vous conseille vivement d'aller les soutenir parce que elles en ont besoin et surtout elles le méritent. Donc direction le stade Salif Keïta demain 14h30.
Voilà, Ninon Blanchard, capitaine des joueuses stéphanoises qu'on a eu le plaisir d'avoir au micro de France Bleu Saint-Étienne. Alors, rendez-vous donc demain face à Guingamp à l'Étivalière. 18h51, le basket dans quelques instants sur France Bleu Saint-Étienne. Loire et plus particulièrement du côté de Montbrison. Voici Julien Doré.
Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'égo et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en. Voir si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre.
Julien Doré, nous, 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 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On est de retour pour le 100% vert et on va parler basket tout de suite avec Corinne Benintendi. C'est la coach du club de basket de Montbrison. Elle fait le bilan de la saison des basketteuses juste après cette élimination qui s'est fait jouer il y a de cela quelques jours en play-off contre Toulouse. C'est le week-end dernier. Elle a répondu aux questions d'Olivier Rochon. On les écoute tout de suite.
Ça y est, la saison est terminée pour le basket club de Montbrison féminin. Le BCMF est allé en play-off. En quart de finale, ça s'est hélas arrêté face à Toulouse. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de la saison avec la coach Corinne Benintendi. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Bon, une défaite 71-63. Toulouse, qui était les premières de la saison régulière de LF2. Les clientes étaient trop fortes.
Disons que Toulouse, oui, Toulouse a une équipe pour jouer en Ligue l'année prochaine. Elles ont fini première du classement. Pour notre part, à l'inverse, j'avais beaucoup d'absentes à cause de blessures. Donc on a fait un match très sérieux, on a fait un match correct et malheureusement, elles étaient bien plus fortes que nous sur cette fin de saison.
Alors vous dites que vous aviez des joueuses qui manquaient face à une équipe qui est donc à dominer ce championnat, mais finalement quand on regarde juste le score, on n'a pas l'impression qu'il y avait une supériorité trop forte en fait par rapport à vous.
Bah disons qu'on a fait on a fait un match très probant, on a fait un match très sérieux. Il me manquait sûrement. Il faut savoir quand même que à ce moment de l'année là, samedi, il me manquait sur le 5 majeur, il me manquait 4 joueuses. Hein. Et la cinquième, elle jouait sur une jambe depuis janvier, c'est notre étrangère. Donc, il est évident qu'on n'avait pas les mêmes arguments maintenant. C'est pour ça que pour moi, on a fait un match très, très sérieux et très beau, parce que j'ai pas ma meneuse titulaire, j'ai pas mon ailière titulaire, j'ai pas mon intérieur titulaire. Donc, c'était un peu compliqué. Mais les filles ont vraiment fait un match où elles ont mis toutes les qualités qu'elles avaient, toutes les qualités qui leur restaient, les qualités de cœur. On a fait, elles sont beaucoup d'enthousiasme, et du coup on a un petit peu rivalisé avec Toulouse.
Finalement, vous êtes une coach satisfaite de vos joueuses, de votre saison?
Oui, je suis satisfaite de ma saison, satisfaite de la saison que le club fait. Pour la simple bonne raison, c'est qu'on a perdu nos joueuses essentielles depuis maintenant un grand moment, puisque on avait quand même la meilleure joueuse de la ligue qui était chez nous, qui nous donnait 25 points et 10 rebonds par match, qui a eu un problème et qui a été opérée en janvier. J'ai quand même une joueuse qui était essentielle et qui a eu un problème cardiaque et heureusement d'ailleurs qu'on s'en est aperçu et qui du coup a été obligée de stopper la saison pareil au mois de janvier. Mmh. Du coup, c'est vrai que par rapport à toutes les imprévus qu'on a eu cette saison, je crois qu'on a fait une très belle saison parce que avec tout ce qui nous est arrivé, vraiment, arriver à se maintenir et jouer les playoffs, c'était pas gagné d'avance.
Donc saison galère, si je comprends bien, mais malgré tout, il y a eu une force de groupe qui a permis de sauver une saison, quoi.
Humainement parlant, c'était un groupe vraiment extraordinaire. Si on a été capable d'aller chercher déjà le fait de se maintenir à ce niveau-là, surtout en ayant eu autant de pépins au cours de la saison, c'est que vraiment le groupe était très solidaire et le groupe, il y avait une ambiance qui était vraiment assez exceptionnelle. Humainement parlant, je pense que c'est une des plus belles saisons que j'ai eu fait en tant que coach. Et du coup, c'est vrai que ça a un petit peu atténué le fait qu'on ait eu tous ces problèmes, quoi.
Ça laisse donc une bonne base, un bon terreau pour la saison prochaine, humainement,
oui,
en tout cas.
Oui, oui. Humainement déjà, basketement parlant aussi, parce que sur les 10 joueuses que l'on a, on en garde 5, plus Jade, celle qui s'arrête à cause de son problème cardiaque, qui restera avec nous et qui a souhaité rester avec nous. Et c'est pour vous dire combien la qualité du club est là. Elle va rester avec nous l'année prochaine, elle va partir sur un contrat d'apprentissage où elle va essayer de se former, elle n'a que 20 ans, hein. Elle va essayer de se former au métier d'entraîneur, donc elle va rester avec nous. Et je garde 5 joueuses, ma base, on va dire 5 joueuses de base, qui restera en plus l'année prochaine. Donc c'est très intéressant, parce que ça nous permet justement de garder notre philosophie déjà de travail et surtout notre l'aspect humain qui est très important.
Justement, vous êtes déjà tourné sur la saison prochaine, on y pense déjà, on prépare des choses.
En Ligue 2, la saison elle vient assez tôt. À partir de janvier, il y a les agents qui commencent à nous appeler et tout. C'est vrai qu'on anticipe un petit peu les saisons d'après, la saison d'après notamment. Et du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on sait, on allait rencontrer les joueuses, après leur agent. On sait qu'on garde ces 5 joueuses et on savait aussi les joueuses qu'on ne gardait pas, celles que je ne voulais pas forcément garder ou qui ne souhaitaient pas rester. Il y a un travail en amont qui est fait assez tôt dans la saison, en effet.
La saison prochaine se prépare et on espère qu'elle sera moins galère, mais voilà, il y a quand même du positif à tirer de tout ça.
Oui, moi j'espère vraiment qu'on aura moins de problèmes physiques sur des joueuses ou des problèmes, quand je dis physique, quand la joueuse a un problème cardiaque, on peut pas faire grand chose. C'est vrai qu'on soit un petit peu préservé par rapport aux blessures, aux grosses blessures. Après, les petites blessures font partie de, mais là, cette année, ça a été vraiment galère par rapport à ça. Donc, j'espère que le chat noir qui tourne autour de la salle de Montbrison,
et ailleurs,
aura voyagé un petit peu, quoi.
Bon, voilà. Ça marche. Bonne préparation de saison prochaine et bon repos, parce que j'imagine aussi qu'il faut se reposer maintenant.
Oui.
Ça va faire du bien après une telle saison.
Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, on arrive quasiment à la fin de cette émission. On va gentiment faire un petit tour de table avant de se quitter, mais très rapide, hein, parce qu'il nous reste grosso modo une cinquantaine de secondes. Michel, on a été très heureux de vous accueillir. Un petit prono pour le match. On va se hasarder au jeu des pronostics. Hein.
On va les écraser 1-0 et on sera ravis. Et on attendra samedi un bon résultat du côté de l'Olympique Lyonnais.
Ouais, mais j'espère qu'ils vont faire le choix.
Mais 1-0, ça me va bien. Moi.
1-0, ouais, moi aussi, ça me va bien. 1-0, il n'y a pas de souci. Si on peut les éclater, 1-0, avec un but à la dernière minute, comme ça, moi, on est peinard.
Bah, tu vois, moi, j'en rajoute. Hein, je dis 2-0, et cette fois, on ne se rue pas à l'abordage. On garde nos arrières et on maintient ce score à 2-0.
On met le bus, l'autocar, l'avion, enfin la totale, quoi. Bon, en tout cas, merci à vous et j'espère que tout va bien se passer. Rendez-vous donc, on le rappelle, demain pour l'avant-match de cette rencontre SS Stade Brestois. À partir de 17h et l'avant-match c'est 16h.